VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Bamako, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. C'est aujourd'hui que James Comey, ex-patron du FBI et la police fédérale, témoigne devant une commission du Sénat américain. Audition qui est censée commencer à 14h, temps universel, soit dans un peu moins d'une heure. Washington retient son souffle, mais James Comey a déjà donné le ton hier dans sa déclaration liminaire, où il a confirmé par écrit que le président Donald Trump lui avait bel et bien demandé d'abandonner l'enquête sur Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale, mêlé à l'affaire de l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016. Le point avec Morgane Guiriec.
C'est un nouveau coup de théâtre dans l'enquête sur la collusion éventuelle entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump. Dans une déclaration écrite, James Comey relate les propos que M. Trump lui a tenus et je cite « J'espère que vous pourrez trouver une façon d'abandonner cela, de lâcher Flynn, c'est un homme bien ». Dans un autre entretien, Donald Trump lui aurait dit « J'ai besoin de loyauté, je m'attends à de la loyauté ». Cette déclaration publiée par la commission du renseignement du Sénat tranche avec les témoignages de la veille. Dan Coats, directeur du renseignement, et Mike Rogers, directeur de la NSA, l'agence d'espionnage, ont déclaré qu'ils n'avaient jamais subi de pression. Le témoignage très attendu de James Comey, que Trump vient de limoger de la tête du FBI, sera retransmis par plusieurs chaînes de télévision. D'ailleurs, des bars de la capitale vont ouvrir ce matin pour diffuser ce que Comey va déclarer à la commission du renseignement du Sénat.
La conférence sur les océans qui se tient cette semaine au siège de l'ONU à New York coïncide avec la Journée mondiale de l'océan, célébrée ce jeudi 8 juin avec pour thème cette année « Nos océans, notre avenir ». De nombreux pays en Afrique, notamment, dépendent du tourisme, de la pêche et d'autres ressources maritimes. Mais selon l'ONU, les mers sont aujourd'hui en danger. Écoutons les propositions de Julien Barbière, chef de la section des politiques maritimes de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO.
Ce qui est important, c'est que les États investissent au niveau scientifique pour qu'ils aient ensuite les données. Mais ensuite, après, il faut que ces pays mettent en place des plans de gestion. Donc, au niveau de la pêche, par exemple, on sait qu'il y a une surpêche, il y a aussi des problèmes de pêche illicite. Donc, il faut mettre en place des programmes de surveillance pour s'assurer que les communautés de pêcheurs artisanaux en Afrique n'aient pas leurs ressources pillées par des flottes étrangères ou par des pêches illégales. C'est aussi important de mettre en place des programmes de réduction de la pollution. Il faut mettre en place des systèmes de collecte, par exemple de plastique, du verre. Et puis c'est aussi mettre des programmes de planification, c'est-à-dire faire en sorte que l'activité humaine et économique qui a lieu en mer puisse être compatible avec la capacité du milieu marin. Le dernier élément, c'est le changement climatique, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a un impact très fort sur l'océan. On parle depuis un certain nombre d'années de l'acidification des océans qui est principalement due au CO2 que les humains recrachent dans l'atmosphère. Et en fait, ce CO2 a un impact sur la chimie de l'océan et crée une acidification qui a lui-même un impact sur la faune.
Julien Barbière, chef de la section des politiques maritimes de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO. RDC, les autorités congolaises ont décidé de garder la direction de toutes les enquêtes sur les violences meurtrières qui secouent la région du Kasaï dans le centre du pays depuis septembre dernier. C'est la réponse de Kinshasa à l'ultimatum du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Raad Al-Hussein, qui avait affirmé mardi attendre des réponses appropriées du gouvernement congolais au plus tard le 8 juin concernant une enquête conjointe sur la situation. Faute de quoi, il insisterait sur la création d'un mécanisme d'enquête internationale pour le Kasaï. Et toujours concernant les violences dans cette région, la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, a exprimé le vœu hier à Kinshasa que le procès des assassins présumés de deux experts onusiens tués en mars au Kasaï central se déroule dans la transparence. Nous souhaitons que la lumière soit faite sur cette affaire et que ce soit un procès transparent et équitable, a déclaré Théophane Kinda, porte-parole de la MONUSCO, lors d'une conférence de presse. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Un procès ouvert sur le meurtre des experts onusiens lundi à Kananga a été renvoyé au 12 juin. Sans le commenter, le porte-parole de la mission onusienne a dit souhaiter que les coupables soient punis à la hauteur de leur forfait. Kinshasa a fait savoir que le gouvernement congolais n'a rien à cacher et reste ouvert à tout appui logistique et technique. Si l'ONU veut nous envoyer des experts en appui aux enquêteurs congolais, ces équipes sont les bienvenues. Mais je souligne que le gouvernement de la RDC va garder la direction de l'enquête, a déclaré la ministre des Droits humains de RDC, Marie-Ange Mouchobekwa. À l'ouverture de ce procès lundi, deux assassins présumés, Evariste Ilunga, élève âgé de 16 ans, et Mbayi Kabasele, vendeur d'huile de palme âgé de 30 ans, ont comparu sur les 16 personnes poursuivies dans l'assassinat de l'Américain Michael Sharp et de la Suédoise chilienne Zaida Catalan.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, le gouvernement a convoqué pour le 9 juillet un référendum sur un projet de révision de la Constitution de 1992, la première révision en 25 ans, qui vise notamment à mettre en œuvre certains engagements de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, signé en mai-juin 2015. L'accord d'Alger aura 2 ans le 20 juin. Réuni à Bamako, le comité de suivi de l'accord a évalué la question des autorités intérimaires et les collèges transitoires dans les 5 régions du Nord, à l'exception de Kidal, où des difficultés d'ordre technique persistent encore. L'ambassadeur Ahmed Boutache du comité de suivi fait le point.
Aujourd'hui, ce qui reste à faire, c'est d'assurer l'effectivité du fonctionnement des autorités intérimaires, et d'autre part, de veiller à ce que l'ensemble des mécanismes sécuritaires, les MOC, les mécanismes opérationnels de coordination, soient mis en place le plus rapidement possible. Le Parlement est là, le gouvernement est là, des textes de loi peuvent être proposés, amendés et enfin adoptés en ce qui concerne n'importe quel segment de la vie de tous les jours. Ce qui est important et qu'il faut en revanche retenir, c'est que les mouvements ont été consultés, ils ont été entendus, ils ont eu à formuler par écrit leur opinion et leurs observations sur le nouveau texte proposé.
L'ambassadeur Ahmed Boutache du comité de suivi de l'accord d'Alger. En Côte d'Ivoire, la police a déclaré la guerre au tristement célèbre élément communément appelé microbe, à savoir les bandes d'adolescents qui sèment la terreur à Abidjan. Plus de 3500 policiers sont mobilisés pour traquer ces jeunes délinquants. Reportage de Georges Ibrahim Tonkara, notre correspondant à Abidjan.
Nous sommes dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan. Abobo, c'est la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, avec plus d'1,5 million d'habitants. Ici, c'est le fief de ces jeunes délinquants appelés microbes. Machettes et autres armes blanches à la main, ces jeunes désœuvrés, dont l'âge varie entre 10 et 25 ans, attaquent par groupe tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur leur passage. À Abobo, tout le monde en a marre des agissements de ces jeunes délinquants.
Il n'y a pas sécurité, il n'y a pas sécurité. On ne cache même pas ça. N'importe qui, tu vas demander à Abobo, il va dire qu'il n'y a pas sécurité. Oh, on a peur, mais comme on est dans la main de Dieu, sinon on a peur, hein, on a peur à Bobo.
Les enfants, là, ils nous emmerdent trop. Parce qu'il y a des fois, ils peuvent sortir en groupe comme ça, un coup. Tout le monde a des machettes. Maltraiter les gens, arracher les portables, arracher les sacs des femmes. Bon, prendre l'argent et puis on te pique. C'est dommage.
Moi, ça parlait de 18 heures. Ils commencent à agresser des gens à gauche, à droite.
L'opération policière lancée il y a quelques jours est donc pour les populations de cette commune un grand soulagement.
Bon, les corabiers, ils ont envoyé dans ces temps. On peut dire Dieu merci, on a un peu de soulagement. Mais on ne sait pas comment ça va finir.
Oui, c'est bien, mais ça ne suffit pas, quoi. Parce que quand ils voient les corabiers, ils savent que voilà les corabiers qui viennent, ils fuient et ils s'appellent. Mais quand ils sont en civil là, quelqu'un qui est en civil là, tu ne peux pas savoir.
Les policiers qui sont là, là, ils ne sont pas là pour faire leur travail. Maintenant, quand on dit de bien protéger la population, que vous commencez à racketter les choses, les transporteurs, ce n'est pas normal.
L'opération de l'OPV ne se limite pas que les grandes voies, mais qu'ils rentrent dans les profondeurs des quartiers. Et surtout les fumoirs, voilà, il faut essayer de démolir ces fumoirs-là. Parce que quand les enfants sont sur l'effet de la drogue, ils n'ont plus peur.
Épervier 2, c'est le nom de cette vaste opération policière qui mobilise 3537 agents des différentes forces de sécurité. Joseph Yao Kwame est le préfet de police d'Abidjan.
À Bobo, parce que nos populations se sentent vraiment en insécurité, l'objectif, c'est de faire tomber le sentiment d'insécurité dans lequel la population d'Abobo est plongée. Donc, toutes les zones criminogènes d'Abobo doivent être passées au peigne fin. l'opération Épervier se mène dans toutes les communes d'Abidjan.
À Bobo, à Djamé, à Tekoubé, Yopougon, toutes ces communes d'Abidjan souffrent aujourd'hui de la présence de ces gangs d'adolescents dont l'apparition remonte à la crise post-électorale de 2010-2011. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.